y aller. On va se faire aider de l'image. Ce matin, je vais vous raconter une histoire. Une longue histoire. Je m'appelle Timothée. Rien à voir avec... Mais... J'habite à Listres. On va voir si la diapositive veut passer. Voilà. Ma ville n'est pas très ancienne. En fait, ce sont les Romains qui l'ont fondée au siècle dernier. Elle est rattachée d'abord à la petite province de Lycaonie, puis plus tard à la province de Galatia sur la carte. Et nous sommes à 30 km au sud d'Iconium, qu'on appellera plus tard Konya, jusqu'au XXIe siècle. L'air y est plus respirable que dans les plaines, car nous sommes quand même à 1200 mètres d'altitude, un peu à l'écart. Je vivais à Listres avec mes parents. Mon père est grec. Ma mère est juive. Elle s'appelle Eunice. Ma grand-mère, Loïs, est également juive. Tout se passait bien dans notre vie. Il y avait une certaine harmonie familiale. Et nous avons tout à coup partagé avec ma mère et avec ma grand-mère une expérience très forte. C'était vers l'année 48. Un juif assez cultivé, appelé Paul, est venu dans notre ville un peu en catastrophe, car il s'était fait assez mal voir à Iconium avec son ami Barnabas. C'était la première fois qu'il venait. Il avait entamé un voyage depuis quelque temps déjà. Il nous a raconté comment il avait changé de vie après avoir cru en la venue du Fils de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Il avait longtemps résisté, et puis tout d'un coup, tout cela était devenu absolument évident pour lui. Lors de ce séjour, il avait guéri un invalide de naissance dans notre ville. Et en voyant cela, la foule était devenue hystérique. Barnabé et Paul avaient été pris pour des dieux après ce miracle. Et cela avait mis Paul dans une colère noire. Il en avait profité pour prêcher d'ailleurs. Il leur avait dit, « Pourquoi faites-vous cela? Nous aussi, nous sommes des êtres humains de la même nature que vous, et nous vous apportons une bonne nouvelle en vous appelant à renoncer à ces idoles sans consistance pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Et puis, tout avait dégénéré. Des juifs le poursuivaient et étaient venus d'Iconium et même de plus loin, d'Antioche, de Pisidie, exprès pour en découdre. Ils avaient réussi à exciter la foule et cela s'était terminé tragiquement. Paul avait été littéralement lapidé. Nous l'avions même cru mort. Et puis il avait été soigné et était reparti finalement pour une autre destination. Cet épisode nous a tous marqués. Ma famille et moi-même, nous avons peu à peu réalisé que le puzzle prenait forme. Tout est devenu clair pour nous, tout à coup. Pour moi qui connaissais les Écritures depuis ma tendre enfance, les petits garçons juifs commencent en effet à étudier l'Écriture dès l'âge de 5 ans. Et bien, c'était évident que Jésus était l'accomplissement de toutes les promesses et de toutes les prophéties. Deux ou trois ans ont passé. Notre petite communauté chrétienne de Listres a grandi autour de notre famille. Moi-même, j'ai pris quelques responsabilités. Il n'est pas facile, dans cette année 51, de faire exister une communauté chrétienne au milieu d'une culture très mélangée. Une grande influence grecque, puis une occupation romaine plus récente, et au milieu de tout cela, quelques colonies juives. Les chrétiens étaient finalement les derniers arrivés. Mais notre communauté avait grandi. D'ailleurs, Paul et Barnabas avaient désigné des anciens dans notre église comme ils l'avaient fait ailleurs, à Iconium par exemple. Et un jour donc, Paul revient à Lystre, au cours de son deuxième voyage. En 3 ans, il s'en est passé des choses. Hein. Et nous savons surtout, parce que c'est venu jusqu'à nous, qu'il y a eu l'an dernier un grand débat à Jérusalem. Ce débat, il n'a cessé de faire du bruit. Faut-il exiger des non-juifs qu'ils se fassent circoncire pour être sauvés? Cette question commençait d'ailleurs à diviser les croyants entre eux à Jérusalem. Pierre et Jacques, les disciples, mais aussi Paul et Barnabas, ont participé à ce débat. C'était un débat important car tout le travail de Paul et de Barnabas consistait à prêcher l'évangile aux non-juifs. Et d'ailleurs, ils recevaient un assez extraordinaire accueil. Et le problème, c'était donc de savoir jusqu'où on pouvait aller sans paraître imposer une culture à d'autres qui n'avaient pas la même. La décision prise lors de ce débat a donc été de ne pas imposer à de nouveaux disciples la circoncision, mais de rester ferme sur quelques éléments. Ne plus manger de viande sacrifiée aux idoles. Ne plus se laisser aller à des débordements de nature sexuelle lors de certaines fêtes. C'était le cas. Ne plus manger d'animaux étouffés. Ne plus consommer de sang. Voilà, au moins pour cela. Et il s'agissait en fait de marquer la différence dans le comportement des chrétiens, mais aussi de limiter un certain nombre de risques sanitaires qui étaient connus des juifs, mais aussi des non-juifs. Alors je vous l'ai dit, Paul revient à Lystre avec Silas, quelques mois après ce grand débat. Et là, quelle n'est pas ma surprise, Paul me demande de le suivre dans ses voyages. J'accepte, encouragé par des frères de Lystre et d'Iconium, et l'aventure commence. Elle commence par quelque chose de douloureux, pour tout vous dire. Vous vous souvenez que le débat qu'il y avait eu à Jérusalem avait conclu à l'inutilité d'exiger la circoncision des non-juifs. Eh bien, le paradoxe, c'est que Paul, lui, me demande de passer par la circoncision à l'âge adulte. Quelle drôle d'idée! En fait, il avait son idée. Comme il savait que nous allions entrer en contact très souvent avec des juifs, il ne fallait pas que je sois un obstacle à cette relation. Il fallait que je puisse rentrer dans les synagogues. Il fallait donc que je fasse partie du peuple circoncis pour pouvoir être accepté et écouté comme Paul lui-même l'était en tant que juif. Paul, un vrai stratège. Et ce que mon père, qui était grec d'origine, ne m'avait pas imposé, Paul me le demandait. Mais c'était pour la bonne cause. 12 ans, 13 ans peut-être, c'est le temps que j'ai voyagé auprès de Paul. Un long périple qui nous a d'abord conduit jusqu'à ce qu'on appelle au jour d'aujourd'hui la Grèce. Philippe, Thessalonique, Bérée, Corinthe, autant d'églises créées. Nous avons même vu Athènes. Ah, c'était un nouveau monde. Hein. Et nous y avons passé 3 ou 4 ans. J'ai dû, pendant cette période, effectuer des missions délicates à la demande de Paul. Revenir à Thessalonique, qui n'était pas vraiment une église de tout repos. Hein. Revenir à Corinthe, où je n'ai pas toujours été écouté. Sans doute une des églises les plus coriaces de toutes. Et puis nous sommes retournés, encore une fois, dans tous ces territoires, pour un nouveau voyage. Pour Paul, c'était le 3e. Pour moi, c'était le 2e. Combien de fois ai-je pris le bateau? Je ne sais plus. Mais les ennuis sont allés croissant. Paul est devenu de plus en plus gênant pour beaucoup de juifs. Et cela a failli très mal se terminer à Jérusalem, où nous étions rentrés. Alors Paul a été en quelque sorte éloigné par les occupants romains qui n'aimaient pas le désordre et la polémique autour de lui. Et moi, mais encore une fois, je l'ai suivi dans ce qu'on peut quand même appeler un exil forcé à Rome, en résidence surveillée. J'avais mûri, j'avais grandi et beaucoup appris dans le sillage de Paul. Lui, il avait été relâché finalement et avait repris ses voyages. Il m'avait envoyé d'abord à Philippe, une église à laquelle il avait écrit lors de sa captivité à Rome. Il avait une affection particulière pour cette église, une des premières fondées hors d'Asie. Et voici comment il m'avait annoncé. J'espère, en comptant sur le Seigneur Jésus, vous envoyer bientôt Timothée pour être moi-même encouragé par les nouvelles qu'il me donnera de vous. Il n'y a personne ici en dehors de lui pour partager mes sentiments et se soucier sincèrement de ce qui vous concerne. car tous ne s'intéressent qu'à leurs propres affaires et non à la cause de Jésus-Christ. Mais vous savez que Timothée a fait ses preuves. Comme un enfant aux côtés de son père, il s'est consacré avec moi au service de l'Évangile. C'est donc lui que j'espère pouvoir vous envoyer dès que je verrai quelle tournure prennent les événements pour moi. Plutôt sympathique, non ? Et puis il m'avait placé finalement à la tête de l'église d'Éphèse en me confiant des missions diverses. Organiser le culte et la vie chrétienne, combattre les faux docteurs, choisir avec discernement les responsables de l'église, rechercher la paix, la concorde, la vérité. J'étais jeune, hein ? Mais alors il m'avait encouragé. Que personne ne méprise ta jeunesse, m'avait-il écrit. C'était compliqué, Éphèse. Une immense cité, pleine d'effervescence, mais j'ai consacré toute mon énergie et je suis devenu plus confiant en moi-même dans les responsabilités que j'exerçais. Quelques années ont passé, mais trop vite au vu de tout ce qu'il y avait à faire. Mais voilà, ce matin, je suis inquiet. Je n'avais pas eu de nouvelles de Paul depuis quelque temps et je reçois cette deuxième lettre qui me semble tellement personnelle, bien plus que d'habitude. Elle est très courte, hein, mais je ne sais pas pourquoi. Mon premier réflexe, c'est de lire tout de suite la conclusion. C'est souvent là que Paul dit les choses qui lui tiennent le plus à cœur ou encore qu'il donne des informations au sujet des uns et des autres. Mais là, pour le coup, ce que je lis m'inquiète. Tâche de me rejoindre au plus vite. Quand tu viendras, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas et les livres, surtout les parchemins. Tâche de venir avant l'hiver. Et au milieu de tout cela, des informations un peu désordonnées. Je sens Paul si solide, si fort d'habitude, comme ébranlé, perturbé, fragilisé. Ce n'est pas son habitude. Que se passe-t-il ? Alors je remonte le cours de sa lettre et je devine que le moment est grave. Paul est de nouveau en prison et cette fois, il n'a pas d'espoir de s'en tirer. Avec les noms qu'il me cite, dans la fin de sa lettre, je suis certain qu'il est à Rome. Et puis, je mesure combien il se sent seul. Alors, tout le monde ne l'a pas abandonné, certes, mais il ne peut plus compter que sur certaines personnes. Onésiphore en fait partie, et nous partageons cet avis avec Paul. Oui, Onésiphore a beaucoup fait pour l'église d'Éphèse. Mais je comprends surtout que dans cette lettre, Paul a choisi de me dire les choses qui comptent pour lui dans ces derniers moments, et que peut-être jamais il ne pourra me dire à nouveau de vive voix, face à face. Je n'ose pas le penser, mais j'ai tellement l'impression qu'il me livre une sorte de testament, ses derniers conseils. D'abord, il me connaît bien. Il sait que je manque parfois d'aplomb, d'assurance, que je ne suis pas quelqu'un qui s'impose. Voilà ce qu'il me dit. C'est pourquoi je te le rappelle. Ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce lorsque je t'ai imposé les mains. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. N'aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. N'aie pas non plus honte de moi qui suis ici en prison pour sa cause. Au contraire, souffre avec moi pour l'Évangile selon la force que Dieu donne. Alors c'est vrai que je suis un peu effacé, parfois, mais il ne faut pas prendre ça pour un manque de conviction. Paul le sait bien et depuis longtemps. Voilà ce qu'il m'écrit dans cette même lettre. Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice, et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. Persévérer dans ma vocation pleinement, c'est son deuxième message. Là, il s'agit de tout autre chose. Il me demande de m'engager totalement, de ne plus hésiter, tergiverser. Le message est clair. Voilà ce qu'il me dit dans cette même lettre. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Comprends ce que je dis et que le Seigneur te donne un effet de l'intelligence en toutes choses. Il m'encourage à vivre ma vocation à fond. Et encore, car ses paroles sont certaines, si nous mourons avec lui nous revivrons, et si nous persévérons avec lui, nous régnerons. Mais si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, car jamais il ne pourra se renier lui-même. Ce que me dit Paul, c'est que oui, effectivement, ce que nous décidons nous engage. Comprends ce que je dis, m'écrit Paul. Je crois comprendre ce qu'il me demande. Ensuite, il me conseille de ne pas me détourner de l'essentiel. Éphèse, ce n'est pas un poste facile pour un responsable d'église. Je le sais par expérience, et Paul qui y a vécu plusieurs années, le sait également. Pour une raison simple. Beaucoup de membres de notre communauté prétendent être des spécialistes des Écritures et sont en fait des faux docteurs, des faux savants qui enseignent un peu n'importe quoi. Je pourrais passer des journées, des années entières à débattre avec eux. Mais Paul m'écrit, évite les bavardages profanes, repousse les spéculations folles et stupides qui ne mènent qu'à des conflits. Il a raison. Et me conseille plutôt dans sa lettre de rechercher la justice, la foi, l'amour, d'abord avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur, de ne pas perdre de temps, comme il le dit, des disputes de mots. Et j'aime bien la définition du serviteur de Dieu qu'il me laisse et dont je vais d'ailleurs me souvenir toute ma vie. Il n'est pas convenable pour un serviteur du Seigneur d'avoir des querelles, qu'il se montre au contraire aimable envers tout le monde, capable d'enseigner et de supporter les difficultés. Il doit instruire avec douceur les contradicteurs. Qui sait si Dieu ne les amènera pas ainsi à changer d'attitude pour connaître la vérité. Troisième et dernier conseil que me laisse Paul dans cette lettre, ne pas m'étonner de l'opposition à venir. Je ne sais pas s'il existe, moi, Timothée, une ville au monde comme Éphèse, où l'annonce de l'Évangile a été autant répandue, et si longtemps, et si systématiquement. C'était la plaque tournante pour toute l'Asie mineure, et pour une bonne partie de l'Europe à l'époque. Mais cela ne veut rien dire. Je me souviens que Paul n'a même pas pu prendre la parole dans ce grand théâtre de 25 000 places que nous avons à Éphèse. Les adorateurs de la déesse Artémis, mais aussi tous ceux qui tiraient profit du commerce autour de ce temple d'Artémis, s'étaient opposés. Aussi, Paul ne me berce pas d'illusions sur l'avenir. Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes sont égoïstes, avides d'argent, vantards, prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Finalement, trois conseils si précieux. Paul me connaît bien. Il sait qu'il a visé juste. Aussi, je me retrouve dans ses ultimes recommandations. Il me dit de tenir ferme dans ce que j'ai appris et reconnu comme certain, me rappelant que c'est lui qui me l'a appris. Nous partageons avec Paul la connaissance des Écritures et leur importance pour enseigner, convaincre, corriger, instruire de façon juste. Nous savons tous les deux que c'est ce qui nous fonde, c'est ce qui nous forme, et c'est ce qui nous rend surtout capables de toute œuvre bonne. Alors, je vais faire ce qu'il me demande. Je vais aller le retrouver à Rome. Je passerai par Troas pour aller chercher son manteau, ses livres, ses parchemins. Il y a un risque. Peut-être serais-je arrêté à Rome, mais je ne peux pas le laisser seul dans ces circonstances. Et puisqu'une lettre C'est une rencontre, peut-être la dernière que je souhaite avec Paul, si j'arrive encore à temps. L'église d'Éphèse m'attendra. De toute façon, Paul a encore une fois pensé à tout. Il me prie de venir, mais il a tout de même pensé à envoyer notre ami Tychique pour nous soutenir pendant cette période.